Ok, nous voilà à la nouvelle soirée de Passion d'apprendre avec Sabrina et Isabelle
Bonjour.
Bonjour.
au sujet de booster votre cerveau avec des astuces de neurosciences. Et c'est une grande première parce que c'est pour une première fois que nous allons avoir deux animatrices à la fois qui se sont bien préparées. Donc je vous laisse commencer et je vous souhaite à tous une belle conférence.
Merci Nicolas.
Merci Nicolas. Rebonjour à tous. Ravie de faire cette première présentation en compagnie d'Isabelle. Ce soir, la thématique, c'est booster votre cerveau avec des astuces de neurosciences, et notamment pendant une séance d'apprentissage. D'abord, quelques consignes d'usage. Fermez les onglets sur votre ordinateur s'il y en a qui sont ouverts pour profiter un maximum de la connexion Internet. Mettre votre téléphone en mode avion. Peut-être avoir à proximité une boisson, de l'eau ou autre chose pour pouvoir vous hydrater pendant la présentation et puis surtout de quoi noter. Alors, la présentation va durer à peu près une heure et demie. À la fin, on aura un petit temps d'échange, mais vous avez la possibilité de poser vos questions pendant le chat. Et si on peut y répondre tout de suite, on y répond. Sinon, on attendra la fin. Et puis voilà pour les consignes d'usage. Alors, Isabelle va vous présenter un petit exercice qu'on va faire avant de commencer. Donc, on se met tout de suite en action. Je la laisse commencer.
Voilà, parce qu'on a prévu quelques exercices pendant notre présentation. Et donc, le premier, en fait, c'est de vous poser un petit peu et de noter sur une feuille tout ce que vous savez déjà sur le sujet. C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez des astuces pour aménager une séance d'apprentissage, pour booster votre cerveau, pour mieux apprendre? Donc, ce qui serait bien, c'est peut-être de faire ça en mind map. Et peut-être de partager quelques astuces dans le chat pour que tout le monde en profite. Pendant que vous allez faire ça, on va en profiter pour se présenter toutes les deux.
Alors moi, c'est Sabrina. J'ai fait effectuer une reconversion il y a à peu près 2 ans de ça, suite à un licenciement économique. Je me suis formée à la sophrologie et j'accompagne aussi des femmes qui sont en transition professionnelle en les aidant à booster leurs capacités cognitives pour aller plus loin dans leurs projets professionnels et personnels. En parallèle, j'ai intégré le réseau de coachs à apprendre de Jérôme et Nicolas. Parce que j'adore apprendre et j'adore transmettre. Et le fait d'avoir des techniques et des stratégies pour apprendre à apprendre, ça m'a beaucoup attirée, ça m'a beaucoup aidée, moi, à aller à l'essentiel sans me sentir frustrée. Voilà pour la petite présentation.
Donc moi, je suis ingénieure. Je travaille actuellement pour Bureau Veritas. Je fais des audits de certification en système de management. Mais ma passion, c'est tout ce qui est apprentissage. J'ai toujours donné des cours particuliers à des enfants et j'aurais bien aimé me recycler dans ce domaine. Et par contre, je me suis aperçue qu'à l'école, on n'apprend jamais à apprendre. Dit, prends ta leçon de maths, ta leçon de physique, de français, d'histoire, mais on ne dit jamais aux élèves comment il faut faire. Et donc, je me suis intéressée aux neurosciences et j'ai intégré le groupe des coachs de passion d'apprendre de Jérôme et Nicolas pour apprendre de nouvelles techniques d'apprentissage et pour pouvoir les transmettre et vous les transmettre ce soir. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir un petit peu à tout ce que vous savez déjà comme astuce pour mieux apprendre? Des petits retours dans le chat? Alors on va commencer. Tu fais le sommeil? Boire de l'eau, de la posture. Bien.
Il y a peut-être d'autres choses que vous avez notées?
Ah ouais. Travailler le soir pour dormir dessus. Respirez profondément.
Y a pas mal de bonnes astuces dont on va parler ce soir. Donc, vous savez déjà pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à partager. Organiser son environnement.
Et là, c'est tout.
Répétition courbe de l'oubli.
Ah, super, Frédéric. Ça, c'est moi qui vais vous en parler. Vous voyez que vous savez déjà plein de choses.
Je regarderai si vous partagez d'autres choses en attendant. Alors, le smashing scope, on a aussi. Les flashcards.
Je suppose que c'est des choses que vous avez déjà vues avec nos collègues.
Tout le monde connaît les astuces qui ont été partagées dans le chat ? Tout le monde en... Vive passion d'apprendre. Eh oui, les astuces ont déjà été partagées. Ouais. Je propose qu'on parle du sommaire de la présentation. Alors, on va commencer par un peu de théorie. Rappel, le but, en fait, c'est de connaître le fonctionnement de son cerveau pour comprendre pourquoi il est important de s'organiser et de se préparer quand on entame une session d'apprentissage. Ensuite, avec Isabelle, on va voir pourquoi, justement, il est nécessaire de s'organiser pendant une séance ou pour préparer sa séance. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et puis, on va parcourir l'avant, le pendant et l'entre-deux séances d'apprentissage avec, par-ci, de là, en fait, des petits exercices qu'on va vous proposer, que vous pourrez appliquer directement. Alors là, ce qu'on va vous faire, c'est des propositions.
Bon, Sabrina, on ne t'entend pas très bien dans ton micro.
Apparemment, sont déjà...
On ne t'entend plus et ton image est figée. Je pense que c'est ton réseau.
Je coupais la vidéo de Sabrina. Sabrina, ouais. Tu peux couper ta vidéo et peut-être ça ira mieux.
Ouais, tu crois? Là, ça bouge ou pas?
Du coup, on t'entend bien, en tout cas. En tout cas, on t'entend bien.
Vous m'entendez? Du coup, je vais le faire comme ça sans la vidéo.
Ok.
Donc là, je vais vous donner quelques rappels sur le cerveau et l'apprentissage. En comprenant comment fonctionne le cerveau, même si vous connaissez déjà certaines choses, donc ce sera plus du rappel de faire le lien en fait avec l'intérêt de préparer sa séance d'apprentissage et d'y ajouter quelques astuces de ci de là. Voilà. Alors là en fait ce que je vous ai partagé, c'est la pyramide de l'apprentissage. Alors je vais pas vous la détailler, mais c'est simplement pour vous montrer qu'en fait, ce qui est important dans tout apprentissage et qui va être la base, c'est la capacité de faire attention et de focaliser son attention sur des informations importantes, notamment sur les nouveaux apprentissages. Après, ce qui va arriver tout de suite, c'est comprendre ces informations. Donc, le cerveau, il fait constamment le lien entre ce que vous connaissez déjà et les nouveaux apprentissages que vous devez assimiler. Et puis après, il y a toute la partie apprentissage avec les techniques plus ou moins avancées d'apprentissage pour intégrer les informations. Et en finalité, vous avez la mémorisation. Mais là, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est le fait de faire attention, en fait. Alors là, quelques notions sur la mémoire. Alors, il faut savoir que le cerveau est complexe, qu'il y a 100 milliards de neurones qui sont connectés entre eux jusqu'à 10 000 fois. Il y a trois zones importantes au niveau du cerveau et de l'apprentissage. Ça va être le cortex préfrontal qui va jouer le rôle de manager, notamment pour la prise de décision et du traitement de l'information. L'hippocampe qui est la région qui approfondit les apprentissages et qui se charge des souvenirs. Et puis l'émotion au niveau de l'amygdale, donc qui va aussi avoir une grande incidence et une influence sur tout ce qui est apprentissage. Donc, pour passer du cortex préfrontal à l'arrière du cerveau, même si c'est des termes, alors je ne sais pas si vous les connaissez, il y a la mémoire à court terme qui est mise en œuvre, donc la mémoire de travail. Donc, elle retient les informations quelques secondes à quelques minutes seulement, donc son rôle, en fait, c'est vraiment l'immédiateté, c'est de rester dans l'instant présent. Elle n'a pas vocation de garder les informations longtemps, c'est pour ça qu'elle demande beaucoup d'énergie. Et puis, au fur et à mesure des différentes étapes de l'apprentissage et de la mémorisation, toutes les informations vont passer dans la mémoire procédurale. Donc, c'est la mémoire implicite, la mémoire à long terme, des souvenirs, en fait, qui va garder ces informations beaucoup plus longtemps. Donc, quelques heures à toute une vie. Entre tout ça, vous avez différentes mémoires qui existent. C'est la mémoire de prospection pardon, qui permet d'anticiper et de déclencher l'intention d'apprendre de nouvelles choses. Donc, elle, déjà, elle permet de se mettre en alerte et donc de favoriser l'attention. Ensuite, vous avez la mémoire sensorielle. Donc là, ça va mettre en avant tous les sens, les cinq sens, et qui va permettre de capter les différentes informations que vous avez en face de vous tout en faisant abstraction de tout ce qui est pollution sonore ou visuelle. C'est vraiment là, ça va demander un effort de focalisation de l'attention. Après, vous avez la mémoire sémantique. Alors là, on va chercher à donner du sens, à comprendre les informations, à créer du lien aussi avec ce qui était déjà connu et les nouvelles informations. Et c'est là qu'il est important de savoir que plus on a des connaissances et plus on apprend, et plus les connexions se font rapidement, il est plus facile d'apprendre en fait. Vous avez la mémoire épisodique. Là, vous allez tout mettre en scène. Vous allez rajouter, tout à l'heure, on a parlé dans le chat de Smashing Scope. Donc là, vous allez rajouter de l'humour, des émotions. Vous allez mettre en scène pour pouvoir vous rappeler en faisant le lien aussi, comme tout à l'heure, avec ce que vous connaissez déjà. Ça vous permet de mieux mémoriser. Pour finir, en fait, dans la mémoire procédurale, donc la mémoire à long terme, là, c'est une mémoire qui est inconsciente et c'est une mémoire où vous n'avez plus besoin de fournir d'efforts. Ça permet de libérer de l'espace disponible dans la mémoire à court terme, donc la mémoire immédiate. Voilà, donc la mémoire procédurale, c'est là que vous allez utiliser, partager, transmettre toutes les informations que vous avez de manière automatique sans avoir à faire d'efforts particuliers. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'attention qui fait partie de la base du processus d'apprentissage qui est à la fois long et complexe. La plus dure partie et celle qui va durer le plus longtemps, c'est celle, à la fois longtemps et de manière courte, c'est le fait de pouvoir préserver son attention, de pouvoir la garder parce qu'elle a plusieurs caractéristiques. Elle est à la fois limitée dans le temps, c'est-à-dire que Isabelle en parlera tout à l'heure, mais on ne peut pas maintenir son attention très longtemps. Elle est sélective. Son but, c'est de pouvoir se focaliser sur plusieurs informations importantes, celles dont on a besoin, et de pouvoir faire abstraction des autres. Elle est énergivore. Elle demande beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est une mémoire de travail. Donc, c'est la mémoire de travail qui est en action. Donc, il faut vraiment que l'attention, il y a un effort qui soit fait. Elle est variable. Ça va dépendre de votre état d'esprit, de vos émotions, de comment vous vous sentez, de si vous avez bien dormi. Elle est sensible aussi au bruit environnant. Vous pouvez imaginer quand vous êtes en conversation avec quelqu'un et que vous entendez dans un restaurant, par exemple, un plateau qui tombe, ça va détourner immédiatement votre attention. Vous pouvez avoir aussi, quand vous discutez toujours avec cette même personne, une autre qui arrive et qui vous reconnaît et qui vous appelle par votre prénom. Là aussi, ça va vous détourner l'attention. Vous avez aussi l'exemple de l'ordinateur. Quand vous avez les pop-up de mail qui arrivent pendant que vous travaillez, là, vous avez votre attention qui est détournée régulièrement. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'attention s'entretient et qu'il existe des astuces pour l'échauffer, la préserver et faire en sorte qu'elle soit à son maximum pour tout ce qui est apprentissage. Là, je vous parlais de l'attention qui demande un effort, mais maintenir sa motivation est aussi important. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'apprentissage, il est long, il est complexe, il y a différentes étapes et il faut pouvoir trouver un intérêt à apprendre sur le long terme. Alors, maintenir sa motivation, c'est quoi ? C'est pouvoir transformer la récompense en action. C'est-à-dire que quand on est motivé, c'est qu'on trouve du plaisir à une action. Et c'est ce qui nous permet de se maintenir dans l'action. Il existe deux types de motivation. Vous avez la motivation extrinsèque. C'est celle qui dépend de l'extérieur, pas de nous. on parle souvent de la stratégie de la carotte et du bâton, pardon. Et c'est souvent ce qu'on utilise à l'école, ou en tout cas dans l'éducation, c'est ce qu'on utilisait pour motiver les élèves à travailler avec la bonne note ou la punition si le travail n'était pas fait. Et en fait, c'est ça la motivation extrinsèque. Alors, maintenant, pour tout ce qui est apprentissage, ce qui va nous motiver, il va y avoir deux types de récompenses. Il va y avoir la récompense qui est contrôlante, un peu quand on effectue un travail pour un salaire à la fin. Il n'y a pas besoin forcément de performance ni d'effort à faire, entre guillemets. Alors que la récompense non contrôlante, ça pourrait être assimilé ou comparé à la prime, qui demande en fait un effort, de l'énergie, d'aller chercher à faire de la performance pour pouvoir avoir des résultats plus. Après, vous avez la motivation intrinsèque. Elle dépend de nous. Elle cherche à satisfaire des besoins fondamentaux, aussi bien physiques que psychiques. Vous avez le besoin d'autonomie, le besoin de compétences, le besoin d'appartenance qui sont souvent demandés, enfin qu'on a besoin d'assouvir. Et donc la motivation intrinsèque, c'est vraiment la recherche de plaisir et le fait de faire des tâches qui nous plaisent. Pourquoi je parle beaucoup de plaisir et de récompense? Parce qu'en fait, il y a un neuromédiateur qui est libéré qui s'appelle la dopamine, et c'est le neuromédiateur du plaisir et de la récompense. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une action qui nous apporte une récompense ou qui nous fait plaisir, ce neuromédiateur est libéré. Et c'est ce qui nous motive à passer à l'action de manière répétée et en tout cas de maintenir sa motivation. Et puis, il y a aussi l'influence de l'état d'esprit. Alors, comment on se sent a une forte influence sur les apprentissages. L'émotion conditionne les apprentissages que l'on fait. Comment on se sent va permettre de mieux apprendre ou d'être plus concentré. Alors qu'au contraire, enfin, et qu'en parallèle, les apprentissages provoquent des émotions. Au début de tout apprentissage, quand on apprend quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on débute, bah souvent on a du stress parce que c'est difficile de retenir les informations. Souvent on a peur du jugement, de se tromper. Enfin, il y a un certain sentiment d'insécurité qui se crée, ce qui crée du stress. Alors au départ, le stress, il est positif, donc c'est pas gênant. Ça permet de faire des actions, c'est une réaction positive. Mais quand il devient chronique, il inhibe et il bloque tout ce qui est processus d'apprentissage. Donc, en fait, il faut avoir cette capacité de réguler ses émotions et son stress. En comparaison, en fait, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est sensation de bien-être permet d'optimiser en fait sa prise de décision, les traitements d'informations, d'optimiser aussi ses apprentissages puisqu'on est dans de meilleures dispositions pour apprendre. Donc là, il y a différentes choses aussi qui conditionnent ces émotions. Sachant que les émotions soient désagréables ou agréables, en fait, elles ne sont pas vraiment négatives. Ce sont des messages qui sont apportés au corps pour avoir une réponse adaptée à la situation. Donc, le seul but, en fait, c'est d'avoir cette influence sur cet état d'esprit et de pouvoir le réguler pour profiter un maximum de ces apprentissages. Maintenant, Isabelle va vous parler de pourquoi s'organiser pour apprendre.
Ok. Ben, je vais d'abord vous raconter une histoire que nous raconte Tony Buzan dans ses livres, à propos d'un étudiant qui, voyant approcher les partiels, décide de se mettre au travail et se dit ce soir, c'est bon, je m'y mets de 18h à minuit. Je vais bosser parce qu'il faut vraiment que je m'y mette. Donc, il est bien motivé. Il rentre dans sa chambre d'étudiant. Il s'installe à son bureau, sort ses affaires et tout. Et puis, d'un coup, réalise que aujourd'hui, il avait oublié de regarder tout ce qui était réseaux sociaux et blogs qui suit et qui sont souvent très intéressants. Donc, il se dit, il faut vraiment que je me débarrasse de ça. C'est vrai que c'est un peu futile, mais il faut que je fasse ça avant de me mettre à travailler. Ça sera fait. Mais bien sûr... vous le savez tous, quand on commence à rentrer dans un réseau social ou sur des blogs, il y a toujours des choses intéressantes et il y passe plus de temps que prévu. Et pendant qu'il est sur son téléphone, il tombe aussi sur le programme télé et il s'aperçoit qu'il y a une émission très intéressante qui va débuter dans 5 minutes. Et là, il se dit, j'ai quand même une journée difficile, donc c'est peut-être le moment de faire une pause Et cette émission ne dure qu'une demi-heure, donc ben, je vais la regarder et après je pourrais me mettre au boulot. Donc il regarde son émission et puis revient au boulot, à sa table de travail, il se réinstalle. Et là, il pense que ben, on est mercredi et qu'il a oublié d'organiser tout le week-end avec ses copains. Donc il se dit « Ah non, non, il faut que je fasse ça vite fait parce qu'après ce sera trop tard, je ne pourrai pas les appeler. Donc vite, je fais ça et puis je me mets au travail après. » Donc il appelle ses copains, il discute, ça prend encore du temps. Et ça y est, il se remet au travail, mais c'est déjà 19h30. Donc il ouvre son cahier, il commence à la première page, et puis là, il y a son ventre qui commence à gargouiller. Et comme il sait que quand on a faim, ben, son attention diminue et sa concentration aussi, ben, il se dit, je vais me faire un petit encas pour être dans de bonnes conditions pour pouvoir travailler. Et après je pourrai travailler. Donc il se prépare un petit encas qui finit par un bon repas parce qu'il est assez gourmand. Et il finit par se remettre à son travail, bien motivé, et il ouvre à nouveau son cahier de maths, chapitre 1. Et là, ben, il a un peu mal au ventre parce qu'il a beaucoup mangé. Il somnole un petit peu parce que vous savez que la digestion, c'est très énergivore. Donc, ça nous donne toujours des petits coups de barre après le repas. Donc, il se dit, voilà, il faut que je fasse une petite pause et après, je me remettrai à travailler. Et il se remet devant la télé. Et arrive minuit et nous, on le retrouve sur son canapé en train de dormir. Donc voilà, on avait un étudiant bien motivé, mais qui finalement n'a pas su profiter de sa soirée. Alors peut-être ça vous rappelle quelque chose, peut-être ça vous est déjà arrivé, d'être très motivé, puis finalement de ne pas trop arriver à vous y mettre. Donc cette histoire nous apprend pas mal de choses. D'abord qu'il y a... On est vraiment envahi de nos jours par énormément d'informations, par tout ce qui est réseaux sociaux, blogs, télé, et qu'il faut vraiment apprendre à gérer tout ça et à se donner des priorités. Après, ça nous donne aussi comme information que ben, l'être humain fait preuve d'une très grande capacité de créativité pour trouver des excuses pour ne pas se mettre au travail. Et pourquoi ? C'est parce que y a un certain stress à se mettre au travail. Alors, comme le disait Sabrina, le stress, c'est positif. Si on a un petit peu de stress, ça nous donne de l'énergie pour faire les choses. Mais s'il y a trop de stress, et là, il y a trop de stress lié aux matières qu'on apprend, parce qu'il est beaucoup plus simple de lire un roman plutôt qu'un livre de maths. Le cerveau, il sait que c'est plus difficile, donc il se met un stress. Il y a tout le volume. Notre étudiant, il avait prévu de travailler 4 heures, c'est quand même un gros volume. Il y a le stress d'être jugé, parce qu'il travaille pour un examen, et donc il va être jugé, et inconsciemment, il peut se dire, bah, si je bosse et que j'ai une mauvaise note, bah, c'est mon estime de moi qui va en prendre un coup. Si je bosse pas et que j'aurai forcément une bonne note, bah, j'aurai une bonne excuse, c'est parce que j'ai pas bossé. Donc tout ça fait augmenter le stress, et qui bloque carrément le cerveau. Parce que du coup, le cerveau se met en mode survie et n'est plus en mode pensant. Donc, tous les apprentissages sont bloqués. Et c'est parce qu'il est en mode survie qu'il fait preuve d'énormément de créativité pour éviter tout ce qui risque de lui faire mal, en fait. Donc, une des manières de baisser ce stress, c'est de définir un volume et un temps. Comme ça, le cerveau, en fait, ça le rassure. Il sait où il va aller, ça évite qu'on erre sur plusieurs matières, par exemple, qu'on ne définit pas les matières qu'on veut bosser, et on se sent plus en sécurité. Et donc, du coup, le cerveau, il a envie d'explorer, et l'attention va plus vers des choses qu'elle ne connaît pas. Par exemple, si vous êtes en forêt, si vous êtes en stress, vous allez avancer doucement. Par contre, si vous êtes rassuré, vous allez explorer ce nouvel élément. C'est exactement la même chose aussi si vous faites des courses, si vous courez. Donc, chacun à son niveau, si vous courez 10 km, un marathon, il sera plus aisé d'avoir de l'énergie suffisante pour finir la course si on voit le panneau d'arrivée plutôt que si on voit que le chemin et on ne sait pas combien de temps il nous reste à courir. C'est la même chose avec l'étudiant. S'il y a trop de choses sur son bureau, trop de volume, il risque de s'endormir comme sur l'image, alors que si il a ouvert qu'un seul livre et il sait où il doit aller, il sera suffisamment motivé pour faire son travail. Donc, pensez avoir de vous fixer une durée et une quantité. Par contre, c'est un challenge si vous fixez lire deux pages d'histoire sur une heure. Ça ne sera pas du tout challengeant et votre cerveau il va s'ennuyer, donc il va vite aller voir ailleurs, réfléchir à autre chose et ne sera pas concentré sur votre travail. Et le fait d'avoir des objectifs que vous allez atteindre, puisque vous vous êtes fixé, ça permet d'avoir une récompense. Et comme disait Sabrina, une récompense, c'est du plaisir, c'est de la dopamine et c'est se mettre en action. Il vaut mieux faire plusieurs pas successifs pour avancer, avoir des petits succès et on progresse, parce qu'on est toujours plus motivé pour dégager énormément d'énergie si on sait où on doit aller. S'organiser, donc du coup, il faut, si vous, quand vous fixez objectif en temps et en quantité, après il faut se fixer dans un planning de travail sur une semaine ou sur plus de temps. Alors pourquoi s'organiser? D'abord, ça permet de répartir la charge de travail. Au lieu de travailler 4 heures le soir, l'étudiant il aurait dû se dire je travaille une heure tous les soirs et je fais telle matière tous les soirs. Ça permet d'avoir donc des objectifs plus restreint et atteignable à chaque fois. Ça permet d'éviter la procrastination parce que si vous planifiez pas des moments avec vous-même pour pouvoir apprendre, vous serez pris dans votre quotidien et dans votre travail. Donc, je vous ai dit que je faisais des audits et vous savez, en entreprise, il y a souvent des plannings partagés où les gens peuvent créer des réunions avec les autres. Et du coup, les agendas se remplissent très vite. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu un responsable maintenance qui avait planifié dans son agenda des temps avec lui-même parce qu'il venait de recevoir une nouvelle machine. Et donc, comme il devait appréhender cette nouvelle machine pour pouvoir faire son plan de maintenance, il savait qu'il devait garder du temps pour lui ou il ne voulait pas être dérangé pour pouvoir se plonger là-dedans. Et la troisième chose, c'est pour intégrer des séances de répétition. Il y a quelqu'un qui en a parlé, je crois que c'est Frédéric. Sans mémorisation, il n'y a pas de... sans répétition, il n'y a pas de mémorisation. Alors, peut-être que vous l'avez déjà vu, la courbe d'Ebbinghaus, qui nous dit que sans répétition, au bout de 24 heures, donc c'est la première courbe en bas, la bleue, il ne vous restera que 20% de ce que vous avez appris. Au bout de 24 heures, vous aurez déjà perdu 80% de ce que vous avez appris. Donc, il est important de faire des répétitions. Si vous recherchez sur Internet « révision espacée », ça s'appelle, vous trouverez des périodicités différentes qui sont proposées. Là, je vous proposais 10 minutes, un jour, une semaine, un mois. Vous pouvez trouver d'autres périodicités. Mais toutes ces propositions ont deux choses en commun, c'est-à-dire que la première répétition doit se faire dans les 24 heures. C'est très important parce que la trace de mémorisation est à ce moment-là très faible et donc il faut vraiment la réactiver rapidement. C'est pas toujours facile. Aux étudiants que je coach, ce que je leur propose, c'est déjà le soir quand ils rentrent chez eux après leur journée d'études à la fac ou au lycée, c'est s'ils ont du trajet de se remémorer la journée qu'ils ont faite. C'est-à-dire, par exemple, de 8 à 9, on a eu des maths, on a fait des intégrales. Voilà ce que j'ai retenu vite fait. Après, j'ai vu un cours de français, on a parlé de ça. Après, j'ai eu un cours d'histoire, on a parlé de Napoléon. Et cette première rémémorisation est déjà intéressante parce que ça fait déjà un aller-retour. La deuxième chose que tout ce que vous avez trouvé en commun, c'est qu'après les révisions doivent être de plus en plus espacées. Les distances entre les révisions doivent être de plus en plus espacées. Avec quelque chose qui peut paraître paradoxal, c'est que pour mieux mémoriser, il faut oublier. Et si vous laissez du temps à l'oubli, il sera plus difficile pour vous de vous remémoriser. Et donc, plus vous faites d'efforts pour se remémoriser, plus vous allez mémoriser. Et une astuce pour ça, c'est quand vous êtes en séance de remémorisation, prenez d'abord une page blanche au lieu de replonger dans vos livres. Prenez d'abord une page blanche pour savoir ce que vous avez retenu, pour faire l'effort de d'abord se souvenir de ce qu'on a, on a appris. Excusez-moi. Est-ce que c'est bon sur les répétitions ou vous voulez un... je vous en dise un peu plus? Bon, ça devrait aller. Sinon, je répondrai à vos questions à la fin.
C'est clair.
Merci. Il faut aussi organiser une séance parce que sans intention, il n'y a pas de mémorisation. C'était le premier slide de Sabrina de la pyramide. Et ce que nous disent les neurosciences, c'est que l'attention, en fait, au bout de 10 minutes, elle commence à décroître. Et donc, on ne peut pas faire des séances de 2 heures sans, avec une attention continue. C'est pour cela, alors vous avez peut-être entendu parler de la méthode Pomodoro qui propose des séances de travail accompagnées de séances de pause, travail, pause, travail, pause, avec une pause plus importante au bout de 4 séries. Donc, c'est une technique très intéressante. Je pense par contre qu'elles doivent être adaptées à chacun de nous parce qu'on a des capacités différentes de concentration et d'attention. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que avec Pomodoro, en faisant des pauses, les pauses servent au cerveau en fait, pour assimiler tout ce que vous venez d'apprendre. Nous, on est en pause, mais le cerveau, il n'arrête pas. Et ça permet de créer des liens puisque le cerveau travaille par association. Et donc, pendant cette pause, il fait des liens entre ce que vous saviez et ce que vous avez appris de nouveau. L'intérêt, c'est que quand vous vous remettez au travail, la courbe de la pause va repartir vers le haut pendant au moins 10 minutes. Donc, vous aurez une attention élevée. Et puis, c'est intéressant d'en profiter quand vous vous remettez au travail, de refaire une répétition de ce que vous avez appris avant. Ça fait la répétition, la première répétition.
Je parle de prise de contrôle à distance. C'est un programme qu'on peut installer sur tous les
transmetteurs. J'entends du bruit. Il y a quelqu'un?
Oui, c'est
une question. Non, je ne sais pas. Je te passe la main, Sabrina.
Oui. J'ai essayé de couper le micro. Ah non, c'est bon, ça y est. Alors là, maintenant, on va dérouler une séance de travail. Enfin, une séance de travail. On va commencer par voir ce qu'on peut faire avant la séance de travail, un peu comme une préparation, un échauffement, pour se préparer au mieux à la séance en elle-même. Une astuce dont on a parlé, je crois que c'est Hélène qui en a parlé au début, boire un grand verre d'eau, 250 ml d'eau 20 minutes avant la séance de travail proprement dite. Alors, les études qui ont été faites n'expliquent pas pourquoi ça marche, mais elles démontrent que ça développe l'attention et les performances. En fait, ça, c'est sûrement en fait au niveau des connexions neuronales qui sont mieux irriguées. Donc, le traitement de l'information, il est plus fluide et ça permet de mieux assimiler, de mieux se concentrer, d'avoir un traitement de l'information qui est optimum. Donc, boire un grand verre d'eau, alors non pétillant, juste avant la séance, permet finalement de bien se préparer. J'en dis pas beaucoup plus pour l'instant, on y reviendra tout à l'heure. Alors, revenir à l'instant présent. Alors, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment juste avant une séance d'apprentissage parce qu'en fait, revenir à l'instant présent, c'est d'être dans un état calme. Je ne sais pas si vous connaissez l'état alpha. C'est un état qui est vraiment propice aux apprentissages et le fait de pouvoir revenir à l'instant présent, ça met tous les sens en éveil pour pouvoir mieux apprendre. Et pour revenir à l'instant présent, vous pouvez, par exemple, vous poser sur votre chaise calmement, respirer naturellement et puis essayer de voir 3 choses différentes proches ou lointaines autour de vous. Donc, ça peut être l'écran d'ordinateur, ça peut être par la fenêtre, ce que vous voyez. Ça peut être aussi 3 choses différentes, les couleurs que vous percevez. Après, ce que vous entendez, 3 sons différents. Ça peut être ce que vous entendez dehors. Si vous êtes à l'intérieur d'un appartement, peut-être le système d'aération. Ou si vous êtes dans une salle où il y a du bruit, peut-être les bruits de fond, la musique ou quelque chose comme ça. Mais vraiment vous connecter à ces sons. Et puis au niveau du toucher, simplement percevoir aussi 3 choses différentes. Peut-être le contact de vos pieds dans vos chaussures, le contact de vos vêtements aussi sur la peau. Et puis vos mains peut-être posées sur vos cuisses ou sur vos genoux. Et c'est vraiment là, en fait, quand vous pourrez mélanger en fait, tout ce que vous ressentez au niveau de ces 3 sens, que vous revenez vraiment à l'état présent. Oui, exactement, Hélène. Oui, c'est ça. L'eau est un conducteur et les neurones fonctionnent à l'électricité. Pour préciser, dans l'étude qui avait été faite, en fait, c'est ce qu'ils voulaient voir, c'est si les performances étaient plus élevées, mais ils n'ont pas fait des tests ou des scanners ou des choses comme ça. Et c'est exactement ça. Alors là, je vais vous proposer un petit exercice. Ça vous permet de faire une petite pause en même temps dans la présentation. C'est de vous asseoir confortablement sur votre chaise. Donc là, ça ne va pas durer très longtemps. Hein. Ça dure tout au plus une minute. Et puis de prendre une bonne respiration. Et puis en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste suivre mes consignes. Et puis après, vous verrez si c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Donc là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de fermer les yeux, de prendre une respiration naturelle et puis d'inspirer par le nez en comptant jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez votre respiration une seconde et en soufflant et en expirant par la bouche, vous imaginez visuellement le chiffre 3, vous prononcez intérieurement le mot calme et vous sentez toutes les tensions partir de votre corps. Ensuite, vous reprenez une respiration naturelle et une seconde fois, vous inspirez par le nez en comptant jusqu'à 5. Vous bloquez votre respiration. Vous imaginez visuellement le chiffre 2, vous prononcez le mot calme en expirant et vous sentez toutes les pensées s'envoler et diminuer dans votre esprit. Et la troisième respiration, vous inspirez pareil 5 secondes, vous bloquez votre respiration. Vous expirez, vous imaginez une fleur épanouie. Vous dites intérieurement le chiffre 1 et vous sentez le calme dans votre corps et dans votre tête. Alors là, j'ai peut-être été un peu vite. Donc, selon les personnes, il faudra prendre plus de temps ou se focaliser sur l'un des sens parce que parfois, c'est difficile de se concentrer à la fois sur ce qu'on voit, sur ce qu'on se dit et sur ce qu'on sent. Le plus important dans cette respiration, c'est de sentir son corps, donc sentir le calme, sentir les pensées s'envoler et sentir tout son corps et son esprit calme à la fin. Et plus vous allez vous entraîner, c'est toujours pareil au niveau de la pratique, et plus vous allez pouvoir mêler les différents sens et ressentir tout de suite cet état de calme qui va vous préparer à démarrer votre séance d'apprentissage. Ça a été pour vous au niveau de l'exercice ou vous avez besoin d'explications complémentaires par rapport à ça? Ok. Alors, vous avez après, celle-là, on ne va pas le faire. Ça dure à peu près 5 minutes. Merci, Elisabeth. Ça dure à peu près 5 minutes, cet exercice de la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous l'avez déjà utilisé. Dites-moi dans le chat si vous connaissez. Donc, ça permet… Oui. Bon. Donc, en fait, ça aussi, c'est un bon exercice pour pouvoir se mettre dans un état propice à l'apprentissage, à avoir une meilleure attention, avoir de meilleurs réflexes et puis même à se reposer quelques instants. Donc,
tu avais proposé de mettre un lien.
Voilà, oui. Alors, je vous mettrai un lien parce qu'en fait, c'est un exercice qui se fait avec un guide. Et il y a des applications, effectivement, qui existent comme RespiRelax, qui existent maintenant aussi sur, alors aussi bien sur iPhone que sur Android. Donc, voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser. Mais avec le replay, il y aura les liens qu'on partagera avec l'application que vous pouvez utiliser justement pour faire cet exercice. Alors, soit avant vos séances d'apprentissage, puisqu'il y a des coupures, c'est aussi des choses que vous pouvez faire entre les séances hein, par rapport à Pomodoro, comme vous proposait Isabelle tout à l'heure. Voilà.
C'est bon ?
Ouais. Alors là, deux astuces. C'est en mode gourmandise ou pas. Là, en fait, c'est des astuces que vous pouvez utiliser pour décupler vos potentiels cognitifs, enfin, en tout cas, vos performances cognitives. C'est l'huile essentielle de menthe poivrée que vous pouvez mettre sur un mouchoir et respirer ou tout simplement l'utiliser en buccal aussi, sous forme de bonbons ou même dans le thé ou des choses comme ça. Faire attention au dosage aussi. Et ça, ça permet d'avoir de meilleures performances aussi cognitives. Vous avez aussi les bonbons à l'eucalyptus. À l'intérieur, il y a un principe actif qui s'appelle l'eucalyptol et qui lui aussi a les mêmes vertus pour favoriser le bien-être, améliorer les performances cognitives, permettre de mieux traiter l'information et de mieux se concentrer. Vous en trouvez également dans le romarin et la sauge. Donc, vous pouvez en mettre dans votre alimentation, mais ça, ce ne sera pas juste avant une séance d'apprentissage. Ça peut être n'importe quand au niveau de l'alimentation. Donc là, il y a des études qui ont été faites sur des groupes de personnes et sans, il n'y avait pas de baisse de la performance cognitive, c'était normal. Par contre, avec, il y avait une amélioration qui était nette, environ 34% de plus de performance que sans. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez tester pour voir si ça fonctionne pour vous. Ça existe aussi en chewing-gum pour tout ce qui est à l'amande poivrée ou même en diffusion si vous faites des diffusions dans l'air avec des humidificateurs ou des diffuseurs. Alors, au niveau de l'environnement propice, je crois que certains en ont partagé tout à l'heure pendant l'exercice au début de la présentation. Ce qui est bien, c'est d'avoir un environnement calme, dénué de tout bruit. C'est quelque chose qui est difficile, mais en fait, le bruit provoque une surcharge cognitive. Et d'avoir au maximum un endroit qui est le même, parce qu'en fait, on fait des liens aussi avec les apprentissages. Ce n'est pas tout le temps possible, mais ça permet de créer du lien. En fait, le fait d'être dans un endroit qui est déjà connu, ça permet aussi de favoriser les apprentissages, où vous pouvez trouver des lieux calmes pour travailler à l'extérieur. Alors, ça peut être des bibliothèques ou des médiathèques ou même un parc, si c'est des livres à étudier. Et puis aussi, éviter tout ce qui est notification de portable juste avant un exercice pour éviter d'avoir laissé partir trop l'attention. Oui, donc oui, pour tout ce qui est huile essentielle de menthe poivrée, il faut vraiment lire les contre-indications. Après, c'est surtout alors ce qui est chewing-gum et qui est en respiration en buccal et nasal, ça a été fait. Après, je ne sais pas si... Voilà, il faut faire attention au dosage.
Oui, mais je pense pas qu'on parle pas d'ingestion.
Je disais qu'on pouvait mettre des gouttes dans le thé, mais c'est vrai qu'il faut pas en mettre. Non. C'est pas parce qu'on
a envie de respirer. Je pense.
Ouais, voilà, non, que ça va avoir plus d'impact. Je crois que la présentation, elle est devenue.
Pardon.
Non, la présentation, elle prenait pas tout l'écran. Alors, je crois que ça a changé.
Ah.
Okay.
D'accord. Ok, c'est bon.
Ouais. Alors. Il a été démontré aussi que profiter de la lumière du jour avant les apprentissages, juste avant un apprentissage, donc soit en se baladant, soit travaillant à la lumière du jour, ça permettait aussi d'améliorer les performances cognitives, sachant que la lumière artificielle est plutôt néfaste. Mais bon, tout le monde ne peut pas travailler forcément dans les bonnes conditions, surtout si on travaille plutôt le soir. Donc en fait, ce qui est bien, c'est aussi pendant la journée de profiter de l'extérieur et de sortir au moins 20 minutes par jour pour s'aérer l'esprit et profiter de la lumière du jour. Il y a aussi le fait de ne pas utiliser de lumière bleue trop longtemps le soir, notamment une heure avant le coucher, puisqu'en fait, la lumière bleue a des répercussions sur la qualité du sommeil. Et pendant le sommeil, les apprentissages continuent à se faire. Et c'est surtout au niveau de la consolidation des informations traitées et du cloisonnement des infos, donc le fait de le ranger dans les bonnes cases. Donc, plus on utilise de la lumière bleue proche du sommeil, plus on peut détériorer la qualité du sommeil. Après, il existe des applications qu'on peut mettre sur l'ordinateur qui diminuent la lumière bleue. Et puis, il y a aussi des lunettes qui existent si on ne peut vraiment pas... s'empêcher de travailler sur l'ordinateur une demi-heure à une heure avant le coucher. Et puis le fait aussi de changer de posture ou de se préparer en se mettant en mode dynamique avant de commencer une séance, soit en faisant des mouvements, des étirements, de se mettre en position debout puis assise. Ça, vous pouvez le faire avant la séance, donc avec des petits exercices rapides. Alors, il y a le Brain Gym qui existe, dont Audrey, je crois, avait parlé la semaine dernière. Donc, c'est pas mal aussi comme exercice pour s'échauffer. Et voilà, donc l'exercice en plus physique permet de développer le cerveau. Donc là, un petit récapitulatif de ce que je vous ai énoncé. Donc, pour avoir un environnement propice à l'apprentissage, c'est de favoriser la lumière du jour, d'éviter tout ce qui est bruit et pollution sonore, de changer de posture et de bouger avant une séance d'apprentissage, et puis d'éviter la lumière bleue une demi-heure à une heure avant d'aller se coucher. Et maintenant, place à Isabelle pour expliquer ce qui se passe pendant la séance. Okay.
Donc maintenant, on s'est bien échauffé grâce à Sabrina. Donc, on va rentrer dans une séance d'apprentissage. Et par contre, là, on ne fonce pas tête baissée en ouvrant le premier livre venu. Je vais vous donner trois choses à faire en début de séance qui sont vraiment importantes pour bien apprendre après. La première chose, c'est l'exercice qu'on a fait au tout début de la séance, c'est de prendre 5 minutes pour noter tout ce que vous savez déjà sur le sujet. Parce que ça permet d'instaurer un bon état d'esprit pour l'apprentissage. Ça rassure le cerveau, il sait déjà des choses, et donc il sera moins en stress face à l'apprentissage. Ça supprime tout ce qui est rêverie, on commence déjà à rentrer dans l'apprentissage de façon facile, puisqu'on fait quelque chose qu'on sait déjà. Et ça permet d'orienter où c'est qu'on veut aller. Ça permet de se concentrer, commencer à se concentrer sur le sujet qu'on veut apprendre. Le deuxième point, c'est de fixer des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? C'est pour ça que je vous ai conseillé de faire un mind map tout à l'heure sur ce que vous saviez. Après, il faut se dire comment je veux agrémenter mes branches, comment je veux les compléter, qu'est-ce que je veux apprendre de plus. Pareil, ça oriente votre cerveau et il sait ce qu'il va chercher pendant l'apprentissage, du coup, pour faire des liens, pour faire des associations avec ce qu'il sait déjà. Et la troisième chose, c'est la vision initiale. Donc là encore, j'ai une anecdote tirée des livres de Tony Buzan, d'un étudiant qui avait un livre de 500 pages à apprendre, qui s'est vraiment attelé en apprenant régulièrement tous les jours. Il est arrivé à la 450e page et là, il était prêt d'abandonner presque parce que ça lui avait demandé énormément d'efforts et il s'est aperçu que le dernier chapitre, en fait, était un résumé de tout le livre et qu'il aurait pu certainement n'apprendre que le dernier chapitre, ça aurait été suffisant. En fait, la vision initiale, c'est de feuilleter le livre sans rentrer dans le contenu. Ce qu'il faut chercher, c'est la structure du livre. Donc, ce que vous allez chercher, c'est lire les quatrièmes de couverture, la biographie de l'auteur, le sommaire, voir comment sont organisés les chapitres, les graphiques, les encadrés, les citations. Tout ça pour comprendre la structure de l'ouvrage. Ce qui va permettre au cerveau de se préparer. Donc, pour mieux vous faire comprendre, j'ai pris ces deux images. Dans le premier cas, c'est chaque fois que si vous foncez dans un livre directement, à chaque fois que vous aurez une nouvelle information, pof, elle sera posée sur le bureau en vrac. Elle sera posée sur le bureau en vrac. Alors que si vous faites cet effort d'apprendre la structure du livre, mais ça va aider votre cerveau à préparer des dossiers. Comme s'il préparait des dossiers et dans lesquels il va pouvoir classer toutes les nouvelles informations que vous allez avoir. Ce qui permet de ne pas oublier, parce que vous comprenez bien que la dernière feuille en dessous de tout ce tas de feuilles, on va l'oublier, on ne l'utilisera jamais. Et c'est pareil pour les informations. Des informations qui sont mal stockées sont facilement oubliées par notre cerveau. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important qui peut paraître une perte de temps de feuilleter un livre avant de s'y plonger, mais ça prépare vraiment, vraiment pour l'apprentissage. Euh, Donc, le machine scope, on a déjà parlé avec le multisensoriel. C'est avec la vision que vous apprenez le plus, c'est 80% de vos apprentissages, mais il ne faut pas oublier les autres sens. L'ouïe, comme ce que vous êtes en train de faire actuellement, vous avez en face de vous un PowerPoint, vous m'écoutez, donc vous travaillez déjà deux sens. Vous êtes peut-être en train d'utiliser, de prendre des notes, donc vous utilisez votre troisième, le toucher. Tout ce qui est goût et olfactif, c'est plus compliqué. Donc, il y a les bonbons que vous avez signalé Sabrina tout à l'heure. En olfactif, vous pouvez associer votre apprentissage avec des odeurs. Donc, soit la menthe, soit pourquoi pas mettre un parfum que vous aimez dans la pièce où vous apprenez. Concernant tout ce qui est tactile, il y a eu des études qui ont été faites qui d'associer en fait des mouvements aux apprentissages. Ne serait-ce que changer le stylo de main, toucher un stylo, ça peut être intéressant. Il y a même des études qui ont montré qu'on pouvait, pour apprendre une langue, du nouveau vocabulaire, associer des mouvements à ces nouveaux mots. Alors, il ne faut pas avoir peur, parce que c'est vrai qu'apprendre une langue, ça peut paraître beaucoup de vocabulaire, mais avec 1000 mots, il semblerait qu'on puisse commencer à bien se débrouiller avec une langue. Donc, c'est peut-être faisable d'associer 1000 gestes à 1000 mots pour mieux retenir tous ces mots. On va parler des pauses, parce que vous vous souvenez, Pomodoro, on travaille puis on fait des pauses. Est-ce que vous faites des pauses quand vous êtes en phase d'apprentissage? Parce que là aussi, ça peut paraître bizarre de se dire qu'on va mieux travailler parce qu'on fait des pauses. Alors, est-ce que vous faites des pauses et quel type de pause vous faites? Vous ne faites pas de pause. Ok. Il y a peut-être un petit retard dans le chat. Pause pipi. Oui, t'as raison.
À cause de l'eau, oui.
Prendre l'air, ouais. Ok. Ouais, Sabrina, elle nous fait boire, alors après.
Ouais, en plus, je vais faire boire plus encore.
Il faut faire des vraies pauses. C'est-à-dire, on ne profite pas de sa pause de 5 minutes pour aller voir ses mails, pour aller voir Facebook, voilà, tout ça, on éteint. Votre cerveau, il a vraiment besoin d'une pause pour assimiler tout ce que vous avez appris. Après, je vais vous donner plein d'exemples de pauses. D'abord, des pauses dynamiques. Donc, il y en a qui en ont parlé, aller prendre l'air, par exemple, se promener, c'est très bien. Faire un peu de sport, du brain gym, jouer de la musique si vous êtes musicien, si vous jouez d'un instrument, aller boire, aller faire pipi, aller manger un petit morceau, surtout en fin de matinée quand on a un petit creux. Et puis sinon, on pouvait faire des pauses plus cool. Alors au lieu de jouer de la musique, vous pouvez écouter de la musique. Vous pouvez faire une petite sieste comme Garfield. Mais même s'asseoir tranquillement dans un fauteuil confortable, fermer les yeux pendant 2-3 minutes, ça fait une bonne pause. Je vous ai mis un mandala aussi, faire du coloriage, ça peut reposer. Faire une méditation, pour ceux qui sont fans de méditation. Et j'ai aussi trouvé une étude qui disait que les pauses peuvent être encore plus efficaces s'il y a un contact avec la nature. Alors, ce n'est pas forcément évident de pouvoir aller faire une petite balade à l'extérieur. Moi, je vais vous donner une petite astuce que j'ai comme pause qui va vous faire sourire. C'est, en fait, il m'arrive de travailler chez moi avec mes différents métiers. Et chez moi, il y a toujours des tâches ménagères. Et souvent, je fais une pause, je vais tendre le linge de la machine que j'ai mis le matin. Ça me permet de bouger et de sortir, en fait, d'aller au vert. Après, il y a des études qui ont montré aussi que même si on ne peut pas sortir, visionner des images de nature permet de... Ah, il y a quelqu'un qui joue à Candy Crush. rien que de voir des images de nature permet de se connecter à la nature. Donc, vous pouvez faire défiler des images de nature sur votre ordinateur et ça vous permet de vous connecter à la nature. Des photos, par exemple, si vous aimez vous balader et faire des photos, vous pouvez mettre vos photos de souvenirs de balade et ça vous aide à bien déconnecter. Donc, Candy Crush, je sais pas si c'est
ça. Bah, elle jongle aussi.
Elle nage aussi, toi aussi.
Elle jongle et elle fait tout, en fait, Hélène. Elle connaît.
Elle est multipose.
Et puis Marie-Noëlle, elle prend de soin d'elle. Ça, c'est bien aussi. Elle passe du temps dans sa salle de bain.
Pour se maquiller ou pour faire le ménage?
Ah, ça dépend, oui. Après, on peut varier, hein, les plaisirs.
Puis moi, j'aime bien étendre le linge, c'est bien parce que c'est vraiment une activité zéro intellect. Donc, c'est très bien pour faire une pause.
Moi, je saute sur mon trampoline aussi.
Ah, c'est bien.
Ouais. Et puis
le marin. En fait, aussi, le fait de... Ah, tu m'as coupé, je ne sais plus. Si, en plus, ça dégage la charge mentale, en fait. J'ai plus à penser que je dois étendre le linge. C'est fait. Voilà. Et ça me permet de reconcentrer plus facilement sur mon travail.
Il y a Frédéric qui partage. J'ai une collègue qui met un fond d'écran, fond marin, et ça l'apaise. Oui, ouais. Ça sera ça aussi. Comme...
Ah, quand j'avais un aquarium aussi, j'aimais bien. Passer une ou deux minutes devant un aquarium, c'est vraiment très apaisant.
Alors maintenant, voilà. On va voir ce qu'on peut faire entre les séances. C'est surtout, en fait, au niveau de l'hygiène de vie, des choses en règle générale, des choses quotidiennes, un peu des routines, en fait, à mettre en place. Et puis, Marie-Noëlle, elle partage, alors je regarde en même temps, puisque c'était dans ta partie, jardiner ou aller picorer des fruits du jardin. Ah, après, super. Je ne suis pas sûre que tu as envie de revenir pour travailler, Marie-Noëlle.
Si, il y a le timer, il faut mettre le timer.
Oui, c'est ça. Alors, je vous parlais de l'hygiène de vie. Et la chose la plus importante, en fait, qui permet d'apprendre de manière différente, mais pas si inutile que ça, c'est le sommeil. Souvent qu'on néglige parce qu'on a beaucoup envie d'apprendre, on a beaucoup envie de travailler et on dort de moins en moins. Et quand on manque de sommeil, en fait, il y a une baisse des performances cognitives, une baisse de l'attention, une baisse de la prise de décision, même du traitement des informations. Donc, ça a beaucoup d'influences négatives ou néfastes sur l'apprentissage. Alors que le sommeil renforce ces apprentissages. Il y a la réactivation des informations, le renforcement des réseaux neuronaux qui ont été sollicités pendant la période d'apprentissage. Donc, en fait, il ne faut pas du tout la négliger. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de dialogue entre l'hippocampe, on en a parlé tout à l'heure, la région des apprentissages, et le cortex qui traite l'information de manière immédiate, qui discute entre elles, donc qui fait les liens, qui consolide la mémoire et qui permet de donner du sens entre le connu et l'inconnu. Ce qu'on peut faire aussi au niveau du sommeil, enfin une variante, c'est la sieste. La sieste, elle a deux vertus. Elle permet de consolider les apprentissages qui ont été faits avant. Et elle permet d'être vraiment préparée, d'être dans un état calme, propice aux apprentissages qui vont suivre. Donc, elle facilite la concentration et tout ce qui s'ensuit quand on va avoir d'autres séances d'apprentissage. Et il y a aussi le repos éveillé, c'est-à-dire que vous pouvez faire des choses comme la sieste flash qu'on utilise en sophrologie. Donc, vous n'êtes pas vraiment endormi, mais vous êtes dans un état entre veille et sommeil. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez l'auto-hypnose que vous pouvez utiliser aussi ou tout simplement des méditations qui permettent en fait de déconnecter le mental quand on peut. Hein, parce qu'au départ, la méditation, ce n'est pas si facile que ça. Et ça a aussi ces mêmes vertus-là. Après, vous avez l'eau. Alors, je vous parlais avant la séance de boire 250 ml d'eau pour vous préparer à la séance. Mais tout au long de la journée, en fait, il faut vous hydrater. Ça a les mêmes vertus que ce que vous avez vous faites avant une séance. Mais ça permet de vraiment bien irriguer les cellules. On est constitué vraiment en majorité d'eau. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit se renouveler. Et donc, boire et s'hydrater, ça permet vraiment de favoriser vos apprentissages. Et puis, vous avez mangé. Alors, le cerveau, il est friand en oméga-3 et en acides gras essentiels. Il a besoin de beaucoup de glucides. Tout ce qui nourrit le corps et le cœur, en fait, est nécessaire pour le cerveau. Donc, il faut vraiment avoir une alimentation qui est variée, équilibrée, avec des fruits, des légumes et tout ce dont je vous ai énoncé avant. On parle aussi de chocolat noir, qui a aussi des vertus dans l'apprentissage. C'est bien parfois du chocolat noir, alors pas en quantité phénoménale, mais un carré comme ça de temps en temps, c'est sympa. Et puis, il y a ce que j'appelle la brain food, tout ce qui est amandes, tout ce qui est fruits secs. Ça aussi, ça permet en quantité modérée quand même de rebooster en fait, les capacités cognitives et le cerveau et nourrir vraiment bien tout ça. Puis vous avez l'exercice. Alors, l'exercice, ça permet d'augmenter les performances cognitives. On n'a pas fait souvent le lien ces derniers temps, mais c'est un grand lien. L'exercice et l'apprentissage sont liés. Ça permet de réguler l'humeur, de réguler le stress. On avait fait une étude avec des élèves dans une école américaine certains avaient une activité physique à faire et d'autres pas. Et donc, avec les études et les tests qui ont été faits, il a été prouvé que ceux qui avaient une activité physique avaient de meilleurs résultats et faisaient de meilleures performances dans les sciences, les maths, les langues. Donc, faire de l'exercice, bouger ou même faire du brain gym, ça favorise en fait le développement du cerveau. Et puis, un petit exercice dont a parlé Hélène tout à l'heure, le jonglage, donc, que je vais développer tout à l'heure, qui fait partie des exercices qui développent le cerveau et qui permettent de mieux apprendre et de mieux mémoriser. Et puis, se ressourcer. Alors, se ressourcer en ayant des temps calmes, parce que souvent, pendant les apprentissages, certains déclics ne se font pas. Et c'est vraiment pendant ces périodes où on va se ressourcer qu'on va être le plus créatif, qu'on va créer des liens dont on ne s'attendait pas. Donc, c'est vraiment important de s'arrêter. Et comme disait Isabelle aussi à un moment, ça permet d'oublier et de pouvoir se remémorer. Donc, dans ces périodes pour se ressourcer, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez méditer, sortir avec des amis, aller vous balader en forêt, enfin, tout ce qui vous permet à vous de vous déconnecter et de vraiment couper de tout ce qui est apprentissage, puisque même pendant ces périodes-là, vous apprenez, mais différemment. Donc, en fait, toutes ces astuces-là, ça vous permet de semer vos capacités et puis d'optimiser vos séances d'apprentissage. Alors, je vous parlais d'une astuce qui permet de développer le cerveau et de le potentialiser en augmentant à la fois la matière grise qui correspond à des petits ordinateurs dans la tête et la matière blanche qui est tous les circuits neuronaux qui relient justement ces petits ordinateurs. Ça permet de développer ça en même temps. C'est à peu près le seul exercice qu'on connaisse qui permet de faire ça d'une seule traite. Et après une étude, il a été révélé, en fait, 24 hommes et femmes qui avaient fait cet exercice pendant 6 semaines à raison de 30 minutes par jour, que la substance grise et la substance blanche avaient augmenté de 5% et que même après s'être arrêté, la substance grise et blanche n'avait pas diminué. Et puis, Isabelle en avait parlé tout à l'heure. En fait, la répétition, après ces 6 semaines de répétition quotidienne, devait être espacée pour maintenir en fait les effets du jonglage, même si les études n'avaient pas montré de diminution de la substance grise après cet entraînement. Donc, jongler. Alors, il existe des tutoriels pour jongler, mais vous pouvez faire d'autres choses, c'est-à-dire apprendre des choses qui sont nouvelles chaque jour, pour créer de nouvelles connexions et vous permettre de créer des liens plus rapidement pour passer de débutant à expert dans vos apprentissages.
C'est bon?
Voilà, c'est fini. À toi pour les petites questions de la fin.
Alors, on espère que... On a essayé de vous donner beaucoup d'astuces qu'on n'a pas trop surchargées. À vous de choisir celles qui vous intéressent le plus. Donc, on aimerait bien avoir un petit retour de votre part là, dans le chat, si vous êtes un peu de temps. Qu'est-ce que vous avez aimé dans notre présentation? Est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez aimé voir aborder et qu'on n'a pas fait? Et quel est votre engagement aujourd'hui? Quelle astuce vous avez envie de mettre en place pour améliorer et booster vos apprentissages?
Ou même remettre en place, puisque vous connaissez déjà beaucoup d'astuces en fait. Vous pouvez nous partager. Merci Nathalie. Tu vas utiliser quoi toi pour comme astuce ou réutiliser? Il y a d'autres partages que vous souhaitez nous dire dans le chat ou même des questions si vous en avez.
Ah, t'es motivée, Babette.
Eh oui, jonglage. Bon, en fait, quand il y aura le coaching, on aura une vidéo présentation du jonglage pour la semaine prochaine.
Ah, tout le monde est motivé, jonglage. C'est bien.
Oui, c'est pour ça, Nathalie, que je disais que remettre en place, parce que souvent, on connaît et on n'utilise pas. Donc, ça permet vraiment de pouvoir le remettre en place en sachant pourquoi c'est utile. Ouais, les pauses, il faut en faire tout le temps, en fait.
Ouais, pour être efficace et plus productif, il faut faire des pauses. Ah, le piano.
Le piano, ouais.
Les huiles
essentielles. Alphabet Game aussi, c'est bien pour s'échauffer, l'Alphabet Game. Mais vous connaissez déjà tout, en fait. Nous, c'était un rappel aujourd'hui. Bonne idée, Nathalie.
Tu fais quoi, Nathalie, pour tes passions ? Est-ce que tu as des passions ? Ouais, plein de pauses, Hélène, plein de pauses.
En plus, plus on est calme, plus on a fait de pause et mieux on apprend. Ouais. Donc, c'est tout bénef, en fait.
Ouais. Moins on est en stress. Ouais, moins on est en stress.
Voilà.
On est en pause, on n'est pas en stress, on apprend. Merci, Nathalie.
Merci, Fabienne.
Merci, Sabrina. Merci, Isabelle.
Merci, Nicolas.
Comme bon, dit Fabien, c'était super, très clair, simple, efficace. Bravo à vous.
Merci Frédéric. Bon, bah, ça fait plaisir, on reçoit Nicolas. Parce qu'on avait peur quand même. Hein.
Oui, je sais. Mais ça fait partie des défis à relever. Et c'est comme ça, justement, vous incarnez les apprentissages.
Et moi, je me suis vraiment régalée à préparer ce sujet parce que mon premier métier, c'est de l'organisation aussi. Donc, parler du cerveau et de l'organisation, c'était très intéressant pour moi.
Parfait. Et vous avez relevé le défi de faire ça en une heure quasiment. Donc, ça, c'est super.
Ouais. On va pouvoir aller dormir pour apprendre.
C'est ça. Donc, pour savoir si vous avez tout retenu, même des termes que vous ne connaissiez pas, mais j'ai l'impression que tout le monde connaît bien tout ça, c'est juste vous remémorer, comme a dit Isabelle, mais sans regarder vos notes, si vous en avez pris, et voir déjà tout ce que vous avez retenu après une nuit de sommeil. C'est intéressant de voir si ça fonctionne.
On va faire un contrôle demain matin.
Voilà, et on va faire un test et on va mettre ça dans les études C3A. Voilà. Voilà. Passion d'apprendre, carrément.
Rendez-vous demain matin à 7h pour le test.
Le retour à l'école.
Ouais, en duo, c'était intéressant comme travail à deux. Merci à vous et bonne soirée. Ouais.
Merci encore une fois. Je coupe donc l'enregistrement. Hop.